Le journal, bonjour Bernadette Chemonaz.
Bonjour, leur ennemi, c'est la finance. Les gilets jaunes ont ciblé hier le quartier d'affaires de la Défense pour dénoncer injustice et évasion fiscale. Un 21e samedi de faible mobilisation, mais sans incident. Ebola, alerte en République démocratique du Congo. 700 morts déjà, l'épidémie s'accélère ces derniers jours. Israël à deux jours des législatives. Benjamin Netanyahou drague l'ultra-droite. En Seine-Saint-Denis, la préfecture ferme des mosquées pour raisons de sécurité. Les musulmans protestent. Nous irons enfin en Belgique à quelques heures de la course sacrée pour tout un pays. Le Tour des Flandres.
Les invités de la matinale par ordre d'apparition à 7h50. Patricia Martin,
L'auteur et metteur en scène Joël Pommerat pour Ça ira, fin de Louis. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Et puis à partir de 8h20, Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE. Alors que le gouvernement français vient de réduire ses prévisions de croissance pour 2019. Question donc ce matin sur la croissance.
France Inter.
Un symbole financier ciblé donc hier par les gilets jaunes à Paris.
Pour ce 21e samedi, plusieurs milliers de gilets jaunes, 3500 selon le ministère de l'Intérieur, ont manifesté à Paris, partie de la place de la République, premier symbole. Ils ont rejoint le quartier d'affaires de la Défense, deuxième symbole. Alors pourquoi plusieurs milliers de personnes ont ainsi défilé vers la Défense? Pour quel symbole? La réponse de Thibault au micro de Rémi Brancato.
Je pense que le gros symbole, en fait, en venant ici, justement, il y a une conscientisation des gilets jaunes où justement les gens sont renseignés. Et on s'est rendu compte en fait que le pouvoir politique est contrôlé par le pouvoir économique. C'est à mon avis ça le grand symbole, c'est que il y a des gens qui détournent des milliards. C'est pas normal alors qu'il y a 566 personnes qui sont mortes dans la rue l'année dernière. Et c'est pas normal. On est face à un marché qui a déjà acheté toute l'industrie agroalimentaire. Maintenant c'est l'éducation, la santé et la justice. Et on dénonce ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens justement qui se rendent compte de ça. Les gilets jaunes, ça a commencé parce que c'est des gens qui n'arrivent plus justement à vivre décemment. Quand il y a des retraites qui sont à quelques centaines d'euros par mois, ça fait 21 semaines qu'ils manifestent. Et à la Défense, il y a des gens qui se gavent. C'est ça en fait. C'est pour défendre les gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Dans toute la France, ils étaient 23 000, 10 000 de moins que la semaine dernière. Même si ce décompte du ministère de l'Intérieur est contesté par le mouvement, ce samedi est bien celui qui a le moins mobilisé. Il n'y a eu aucun incident majeur. Alors que les résultats du grand débat organisé par l'exécutif seront présentés cette semaine par le Premier ministre sur la baisse de la TVA, qui est une revendication des Gilets jaunes, la réponse ce matin dans le journal du dimanche du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ce n'est pas le meilleur moyen de soutenir le pouvoir d'achat. Cette baisse ne se répercute pas forcément au profit du consommateur.
Alerte à Ebola en République démocratique du Congo.
700 morts en 8 mois dans le nord-est du pays, dont 100 ces 3 dernières semaines. Car l'épidémie s'accélère, aggravée par la méfiance historique des habitants vis-à-vis de tout ce qu'installe le pouvoir central et donc les centres de santé. Deux d'entre eux ont même été attaqués ces dernières semaines. Il y a d'autres facteurs encore qui font prospérer l'épidémie, explique Anne-Marie Pegg de Médecins Sans Frontières, jointe par Louise Baudet.
C'est difficile parce que historiquement, dans cette région, il y a très peu de confiance sur les institutions de l'État. C'est un problème qui date bien avant l'Ebola et cette maladie est tombée malheureusement dans un mauvais moment et aussi était manipulée politiquement. L'autre problème, c'est Ebola, c'est une maladie extrêmement difficile à diagnostiquer parce que les symptômes au début de la maladie, ils sont exactement les mêmes que plusieurs autres maladies. Les symptômes de paludisme, les symptômes d'une fièvre typhoïde. Donc les gens, comme ils ne sont pas habitués de ce diagnostic, ils se rendent dans les centres de santé, un parcours de soins qui ressemble leurs habitudes avant la maladie. Et donc nous, il faut absolument que notre réponse de cette maladie a une intégration de le système sanitaire actuel et que la réponse Ebola n'existe pas en parallèle ou complètement à part du système sanitaire actuel.
De l'autre côté de la frontière, le Rwanda entame aujourd'hui un long chapitre de commémoration. 100 jours, comme la durée du génocide des Tutsis il y a 25 ans. 1 million de Tutsis et Hutus modérés tués en 3 mois. Génocide planifié par les extrémistes Hutus. Ce matin, les cérémonies commencent par un dépôt de gerbes au mémorial de Kigali où 250 000 victimes sont enterrées.
L'actualité, Bernadette Chamonix, c'est aussi en Israël les législatives dans deux jours.
Scrutin essentiel pour le pouvoir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est au coude à coude avec une formation du centre. Dans ce contexte, toute voix est bonne à prendre, celle de l'extrême droite. Benjamin Netanyahou vient d'ailleurs de déclarer qu'il annexerait des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection. Pendant la campagne, il a tenté de renforcer cette extrême droite avec laquelle il est susceptible de gouverner. Étienne Monin.
Dans une grande salle des fêtes bondée, Itamar Ben-Gvir fait une entrée de star. Il est l'espoir de tout un parti, le seul candidat de Otzma, le parti Force Juive, à pouvoir éventuellement faire son entrée mardi soir au Parlement. Force Juive est le plus radical des partis de droite. Il puise ses racines dans une formation raciste qui a été interdite dans les années 80. Il considère que l'identité juive en Israël est menacée. Il y a une menace qui vient à la fois de l'extérieur avec les États qui sont contre nous, mais aussi de l'intérieur, avec des Juifs israéliens comme nous qui sont contre notre identité juive. Force Juive s'en prend aux institutions et aux partis arabes. Il souhaite démanteler la Cour suprême et soumettre les Arabes d'Israël à un serment de loyauté. Dans cette salle, les Juifs se voient comme des citoyens de second rang. J'ai des voisins arabes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils mettent la musique à fond. Ils mettent leur vélo dans le jardin. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, si je fais pareil, on m'envoie la police. Avec cette campagne, ces extrémistes ont retrouvé un vernis institutionnel. Quatre partis d'extrême droite pourraient entrer au Parlement mardi soir. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Le département de Seine-Saint-Denis est celui qui compte le plus de lieux de culte musulmans en France. Quelques 167 vraies mosquées, mais la plupart sont de petites salles de prière dans des endroits improvisés. Pour raison de sécurité, la préfecture en a fermé deux, s'apprête à en fermer un troisième et les musulmans s'inquiètent. 150 manifestés hier. Alexandre Frémont.
Hassen, qui vient prier 5 fois par semaine dans la mosquée du centre-ville, va en effet devoir changer ses habitudes.
Une semaine, c'est impossible. Il y a des gens qui travaillent, ils viennent juste faire la prière et retourner au boulot. Ça dérange, quoi.
À côté de lui, Nadia, 70 ans, elle pense plutôt aux personnes âgées et handicapées.
On ne peut pas aller à la mosquée qui est Astin ou qui est je ne sais où. C'est pas possible, surtout que le ramadan arrive. Il y a des prières du soir. Elle peut pas rentrer le soir tard par rapport au transport qui ne correspond pas.
Et puis si rien ne bouge, elle viendra prier dans la rue s'il le faut.
Moi je vous le dis honnêtement, si j'ai pas de lieu, ben je la ferai. Point barre. Après tout, je paye une taxe de la ville. Je vois pas pourquoi j'en profiterai pas.
Des problèmes de sécurité incendie ou d'accessibilité, voilà des raisons qui poussent la préfecture à fermer ses lieux de culte. Fermer, d'accord, mais elle doit trouver des alternatives, estime Abdelhakim Kerbois. C'est le président de l'association qui gérait l'une des deux mosquées fermées.
Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait une salle de substitution pour que ces personnes âgées qu'on est venu défendre puissent faire exercer leur culte dignement. Voilà.
Et en cas de fermeture définitive de ces mosquées du centre-ville, il faudra désormais faire 4 km selon les associations pour aller prier dans le lieu de culte le plus proche.
Alexandre Frémont, un incendie hier soir dans le 19e arrondissement de Paris. 27 appartements ravagés d'un HLM de 8 étages. Il n'y a pas de blessés. L'origine de l'incendie reste à déterminer. En sport, une défaite, non une humiliation. Lyon battu à nouveau à domicile pour la deuxième fois cette semaine par le dernier de la Ligue 1 en plus, Dijon. Défaite 3-1 pour Lyon. Et puis en Belgique, un roi sera fêté ce soir, le vainqueur du Tour des Flandres. 103e édition, une course pour beaucoup unique. L'une des plus difficiles de la saison. 270 km.
C'est déjà pas mal. Énorme.
Pour la plupart des monts pavés, mais aussi un fort engouement populaire. Fanny Lechevestrier.
Le Tour des Flandres, c'est d'abord une ambiance, celle où dès 10h sur la grande place d'Anvers, la bière a depuis bien longtemps remplacé le petit café du matin avec un esprit de kermesse où près de 800 000 personnes se pressent au bord des routes pour un jour sacré, raconte admiratif Marc Madiot, le manager de Groupama FDJ.
Dans la voiture, moi je regarde un peu ce qui se passe sur le bas-côté. Ce que je retiens, c'est que toutes les couches de la société flamande sont sollicitées et répondent à l'appel. Tout le monde est endimanché. C'est un peu comme une grande communion par rapport au cyclisme et c'est en cela que c'est assez extraordinaire.
Une atmosphère que Pierrick et Bernard, arrivés mercredi et de Bretagne en camping-car pour être certains d'avoir une place, voulaient vivre au moins une fois.
Je me je lui ai dit, avant de mourir, il faut que je vois ça.
Ça représente les guerriers, les hommes qui n'ont pas peur du pavé, une course d'hommes.
Car le Tour des Flandres, on y boit, oui, on crie aussi, mais on admire également les coureurs confrontés à la dureté des monts et des pavés devenus mythiques, mais portés par la foule, décrit le sprinteur de Direct Energy, Adrien Petit.
Waouh, on a l'exemple du vieux Coirmont où on y passe trois fois. Premier passage, c'est déjà énormément de spectateurs. Deuxième passage, il commence à y avoir des cris énormes. Et le dernier, c'est vraiment l'euphorie, tout le monde est au taquet. C'est juste grandiose, quoi.
L'une des rares courses, ajoute-t-il, où tu finis complètement mort, mais avec la chair de poule. À Anvers, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Sacrée course que ce Tour des Flandres. C'est difficile à dire, c'est encore plus difficile à courir.
Oh, jolie chute, merci Bernadette Chamonaz. Le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
La couleur du jour, Jean-Michel Golinski, le gris aujourd'hui.
C'est vrai, en plus il faudra souvent, assez souvent, se protéger de la pluie avec déjà ce matin des ondées parfois mêlées d'orages du bassin méditerranéen au quart sud-ouest et de l'est du Rhône à la Bourgogne. En journée, toutes ces régions vont conserver un risque d'orages et d'averses avec une propagation de l'instabilité à la fois par le Poitou-Charentes, la Bretagne et puis sur la face orientale vers le Grand Est et les Hauts-de-France. Bref, cet après-midi, c'est au moins 75% du territoire qui sera concerné par ce ciel incertain. Une poche de temps un peu meilleure va se dégager entre la Basse-Normandie et le centre. Avec cet après-midi, des températures en légère baisse par rapport à hier sur le nord et l'est, en petite hausse dans le sud. La moyenne sur le pays sera de 15 degrés.